Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là, malgré la chaleur. Et donc, merci Antoine Guironnet de venir de Lille, ou de, non pas de Lille, de Paris. La maison est lilloise. Voilà, qui vient nous parler donc de Au marché des métropoles, sorti aux éditions Les Étacs. Voilà, c'est un cycle qui s'appelle désormais Qui nous pourrit la ville et qui est proposé par Américo, qui va le présenter plus en détail. Il y a une deuxième rencontre jeudi à la librairie. Et il y en a d'autres au kiosque et puis encore ailleurs. Et puis, tout au kiosque après. Merci et très bonne soirée. Je te passe la parole. Ouais.
Alors, merci d'être là. Alors, déjà, bon, un petit message d'information pour les personnes qui auraient envie de participer à l'autodéfense sanitaire. Il y a des masques qui sont devant. Si vous voulez les mettre, vous les mettez. Ça me semble être une bonne chose, mais vous faites bien ce que vous voulez. On a déjà eu assez d'injonctions dans cette histoire. Donc, le cycle s'appelle aujourd'hui « Qui nous pourrit la ville ?» Il était annoncé et la ville, elle est acquise dans le programme de Terra Nova. Finalement, la réponse serait peut-être presque la même, malheureusement, parce que la ville n'est pas à nous, même si on aimerait dire que la ville nous appartient, comme la rue. Souvent, finalement, on s'aperçoit que quand on veut la prendre, on nous l'enlève assez rapidement, voire on en nous expulse. Et c'est un peu pareil pour la ville. Le « Qui nous pourrit la ville ?» me semblait plus intéressant, peut-être moins désespérant que la ville, elle est acquise, pour constater peut-être à un moment un horizon un peu sombre dans la propriété de cette ville, dans l'appropriation de la ville, à la fois dans son espace public et dans son espace privé. Et le cycle veut attaquer la question sans faire vraiment apporter la réponse, parce que la réponse, elle est multiple, elle est complexe. Il n'y a pas vraiment un nom, mais il y a une série de mécanismes qu'on peut démonter un peu. Et on va commencer avec le pouvoir urbain de la finance. Hein, je vais laisser Antoine développer ça. Mais juste quelques mots sur la suite. Si vous avez envie de venir jeudi sur le capital dans la cité avec cette encyclopédie critique, ce sera Emeline Combi qui sera là, parce que Mathieu Adam ne pourra pas venir du fait du rétablissement de la politique eugéniste dans les transports, qui fait que on ne peut plus, les personnes immunodéprimées ne peuvent plus prendre les transports en commun. Voilà. Le 28 mai, donc samedi en 8, comme on dit, plus vite que le cœur d'un mortel, les villes aussi peuvent mourir, avec Max Rousseau. Ça sera à La Chapelle, ça sera dehors. Et ça sera, à mon avis, hyper intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez ces histoires de Cleveland, des villes qui ont été des villes de riches, qui sont devenues des villes de pauvres. Ce qui veut dire, surtout aux États-Unis, souvent aux États-Unis, des villes de noirs. Et maintenant, ce sont des espèces de déserts. Et c'est assez hallucinant de voir comment la dynamique du foncier, la dynamique du capital, attaque pour de vrai la ville, jusqu'à la faire brûler, pour faire ensuite des potagers dans des caisses. Et enfin, le 29 mai, le dimanche, toujours au kiosque, à La Chapelle, La forme d'une ville, hélas. Il y a un petit raccord qui s'est fait, c'est tout à fait improbable, mais c'est comme ça. Et c'est l'histoire d'une lutte urbaine à Toulouse, la lutte des berges, une autoroute qu'on voulait nous faire sur le bord de la Garonne, et qui devait découper la ville et qui n'a pas été faite parce que des gens se sont levés et ont dit bah en fait non, on va pas faire ça. Et du coup voilà, il y a deux épisodes qui racontent un petit peu cette lutte et qu'est-ce qui s'est conformé comme pouvoir derrière ça. Voilà pour le cycle qui n'a pas d'autre prétention que de remuer un peu cette question-là en espérant que ça vous permettra de discuter de ça. On va rentrer dans la rencontre d'aujourd'hui avec Antoine Guironnet au marché des métropoles, enquête sur le pouvoir urbain de la finance aux éditions Les Étacs. Et avant de commencer cette histoire du marché des Étacs, tu vas la lancer. Avant de commencer, ben on va se faire une petite vidéo histoire de mise en contexte et on va rencontrer peut-être quelqu'un à qui la ville appartient d'une certaine manière, à qui on a confié la ville, à qui on a confié les clés de la ville. Et peut-être quelqu'un qui nous pourrit la ville, à vous de savoir. Peut-être vous allez le reconnaître, peut-être pas, mais vous ne vous inquiétez pas, il y a des sous-titres.
Je mets en avant les projets qui avancent, les grands projets structurants de l'avenir de Toulouse, qui, je pense, peuvent intéresser les professionnels et les investisseurs.
Le MIPIM est un rendez-vous extrêmement important pour nous à Toulouse Métropole. D'abord parce que c'est l'opportunité de travailler avec nos territoires voisins, le Muretin, le Sicoval, le Conseil départemental. On est dans une logique partenariale. C'est aussi l'opportunité de rencontrer les acteurs de la construction, de la promotion, de l'investissement que nous avons à Toulouse, mais aussi c'est l'opportunité pour nous de rencontrer des acteurs extérieurs et puis d'écouter l'image de notre métropole vue par ces acteurs extérieurs. Deux grands domaines, le monde de l'entreprise, le monde du développement économique, les locaux tertiaires, les locaux d'activité, les locaux de logistique, les locaux industriels et puis évidemment le logement, l'habitat.
La troisième ligne de métro, c'est le projet de transport en commun le plus important de France après ceux de l'Île-de-France. 28 km, et donc vous imaginez, 28 km de métro, c'est la promesse de développer des investissements sur le plan immobilier pour créer des emplois, pour créer des logements tout au long de cette artère qui va traverser d'est en ouest l'agglomération toulousaine. Les nouveautés, c'est aussi la LGV. On a signé avec le Premier ministre et 24 autres collectivités locales le plan de financement. Toulouse était la seule capitale régionale non desservie par la LGV. Donc, d'ici une dizaine d'années, nous aurons une desserte LGV qui viendra compléter la desserte aérienne qui est déjà très, très favorable et très, très considérable. Et puis, le quartier du Grand Matabiau, c'est 135 hectares au centre-ville, la gare qui change avec des investissements considérables dès cette année, et un nouveau quartier qui va voir le jour avec 206 000 m² de bureaux, avec 3 000 logements, avec une spécialisation sur l'économie numérique. Donc tout ça, c'est des nouveautés très, très concrètes.
Ouais. Merci beaucoup. Hein. Merci à la librairie, bien sûr, pour son accueil, à Américo d'avoir invité, puis d'avoir plus largement coordonné ce cycle, et puis à vous d'être là ce soir. En fait, l'idée de cette petite vidéo, c'est moi qui l'ai proposée à Américo. C'était un peu pour contextualiser et un peu incarner ce dont on va parler ce soir. Et puis ce lieu, en fait, qui forme le cœur de l'enquête qui fait donc l'objet de ce livre. Donc moi, je suis Antoine Guironnet. Je suis chercheur précaire en économie politique urbaine. Je mène des recherches depuis 10 ans, on va dire à peu près, un peu plus, sur le capitalisme urbain et en particulier sur la financiarisation de ce capitalisme urbain. Alors, cette financiarisation, pour la présenter très rapidement, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus qu'on voit à peu près depuis les années 90 de plus grande intégration de l'urbain et de la finance. Ça veut dire que la ville, c'est plus seulement un réceptacle, par exemple, où vont venir se localiser des banques, mais ça va être un objet, la construction de la ville, ça va être un objet d'accumulation par tout un tas d'institutions financières, donc des banques, mais pas seulement, ça va être des fonds de pension, des sociétés immobilières qui sont cotées en bourse. Donc cette financiarisation, en fait, c'est le rôle plus important de capitaux, d'acteurs, d'instruments de la finance dans certains domaines de la production de la ville. Ça peut être des infrastructures routières, ça peut être des grands équipements comme des stades, et puis ça peut être aussi ce qui forme le cœur du MIPIM, l'immobilier. Alors, pour essayer d'être encore un peu plus concret, j'ai parlé en fait de ces acteurs de la finance. Alors, qui sont-ils ? Par exemple, vous connaissez peut-être le centre commercial du Portet dans la région. En fait, tous les commerces qui, les boutiques qui occupent le centre commercial ne sont pas propriétaires de ce centre commercial. Elles sont seulement locataires. Le propriétaire du centre commercial, c'est un grand investisseur. C'est une société foncière qui est cotée en bourse, qui s'appelle Klépierre, et qui détient comme ça tout un tas de centres commerciaux. Donc en France, ils ont par exemple la galerie commerciale qui est dans la gare Montparnasse. Et puis, ils ont plein de centres commerciaux en Espagne, en Pologne, en Italie et ailleurs. Et en fait, Klépierre, en deux mots, son business, c'est d'acheter et de gérer ces centres commerciaux. Et comment Klépierre accumule du capital ? Eh ben, à travers les loyers, en fait, hein, que lui versent les commerces. Et puis aussi, quand il revend des commerces, eh ben, Klépierre, il essaye de vendre plus cher que ce qu'il a acheté et donc, classiquement, de dégager une plus-value. Et puis, comme ils sont cotés en bourse, eh ben, ils renvoient tout ça sous forme de dividendes à leurs actionnaires. Donc ça, c'est une forme, en fait, de financiarisation qui s'est beaucoup développée depuis les années 90, en surfant sur la vague du fait que des commerces, mais aussi beaucoup d'entreprises, en fait, ne souhaitent plus être propriétaires de leurs murs, mais préfèrent être locataires parce que ça leur permet en fait d'avoir plus de flexibilité, de déménager plus facilement. Et puis pour celles qui étaient propriétaires, eh ben, en revendant à ces investisseurs, elles ont elles aussi empoché de l'argent. Alors, on a aussi un des plus gros investisseurs mondiaux, c'est CalPERS. Alors, lui, c'est le fonds de retraite des enseignants californiens. Et donc, CalPERS, qui gère, je vais dire peut-être une bêtise, mais des centaines de millions, voire plutôt, à mon avis, des centaines de milliards, eh ben, pour finalement pour verser des retraites, des pensions à ces retraités, ces enseignants retraités, une fois qu'ils arrivent à la retraite et qu'ils ont cotisé toute leur vie, eh ben, il va placer en fait, cet argent pendant le temps que les gens cotisent pour ensuite leur rendre à un moment cet argent sous forme de pension. Et donc CalPERS, qu'est-ce qu'il va faire ? 90% vont être placés soit dans des actions, donc, par exemple ils vont acheter je sais pas, des actions d'Apple, surtout dans des obligations, donc par exemple des bons du Trésor américain ou de la dette de l'État français. Et puis une petite poche, 5 à 10%, va être placée dans l'immobilier. Et comme CalPERS n'est pas du tout spécialiste de l'immobilier, généralement il va aller voir des sociétés qui en fait, elles, vont lui proposer de gérer son argent pour son compte et empocher une petite commission pour ça. Et donc, on a tout un tas d'intermédiaires comme ça qui montent des fonds immobiliers, qui vont voir des investisseurs comme CalPERS et puis qui vont en fait s'occuper de gérer leur argent pour leur compte. Et donc, qui vont in fine eh bien, investir dans des commerces à Tokyo, des bureaux à Londres ou des logements à Paris ou encore des bureaux à Toulouse. L'idée, en fait, de ce livre, ce que je voulais faire, c'était justement de porter au débat cette question de la financiarisation, partant d'un constat, en fait, que il y a beaucoup de travaux dans le champ universitaire depuis la crise de 2008 sur ce sujet qui a un peu provoqué, en fait, un électrochoc où les gens se sont dit « Ah bah tiens, en fait, comme l'éclatement de la bulle immobilière a provoqué une crise financière, les gens se sont dit « Ah bah tiens, il y a une connexion, en fait ». Entre l'urbain et la finance, via l'immobilier. Donc d'un côté, on avait plein de travaux, et puis de l'autre, on avait assez peu en fait, de livres en français sur ce terme, et sur cette question qui peut paraître un peu complexe, abstraite, désincarnée. Et moi, justement, ce que j'avais envie de faire dans ce livre, c'était d'aller donc à ce MIPIM, ce marché international des professionnels de l'immobilier, et en fait d'incarner socialement, spatialement, de mettre des noms et un lieu sur ce processus et à travers ça, en fait, en tirant le fil du MIPIM, de discuter à la fois des mécanismes de la financiarisation de l'immobilier et puis de ses conséquences sur les villes, sur leur forme, sur les types de développement économique qui peut avoir. Pour compléter, et j'ai bientôt fini ce petit topo introductif, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est en allant aux ETAC, porter ce débat pas seulement du coup auprès d'universitaires, mais aussi, donc pas seulement parler à mes collègues, mais aussi essayer de toucher un peu plus de gens, ce qui aussi avait un vrai enjeu en fait d'écriture sur ce processus pour arriver à remplir ce pari en fait, de le décrypter et puis de le rendre intéressant en fait. Donc pour ça en fait, on pourra peut-être revenir dessus, mais concrètement, j'ai mené une enquête en fait sur ce MIPIM. Alors je l'ai amorcé en 2012 et en fait surtout le gros de l'enquête a eu lieu de 2017 à 2019 avec des outils assez classiques des sciences sociales, hein, des observations en allant dans ce salon deux ou trois fois, des entretiens en particulier avec certaines collectivités qui participent à ce salon et j'ai surtout suivi les cas de Lyon et du Grand Paris. Et puis, une analyse d'un certain nombre de documents. Et donc, la thèse, si je devais la résumer de ce livre, c'est qu'en fait, ce marché auquel chaque année vont des professionnels de l'immobilier, mais donc y compris des élus comme le maire de Toulouse et le président de la métropole, flanqués en fait aussi de tout leur staff, de tous les techniciens, etc. Et bien, ce MIPIM, c'est pas seulement en fait le reflet d'une financiarisation qui se passerait ailleurs, mais ça constitue aussi un de ses moteurs. Et donc en fait, en y allant, on peut voir comment cette financiarisation, elle se construit. Et la petite nuance en fait, c'est que c'est le moteur de la financiarisation, pas au sens où il y a des ventes directes entre des collectivités, voilà, qui viendraient vendre comme ça directement des morceaux de ville. Il y a quelques signatures de contrats, mais en fait, c'est beaucoup de la mise en scène de choses qui avaient déjà été préparées. Donc, ça ne passe pas vraiment par des ventes entre des collectivités et des investisseurs, mais plutôt par un jeu un peu plus complexe et subtil, de circulation des normes d'investissement, parce que ces investisseurs ne placent pas leur capital n'importe où. Donc, pour eux, qu'est-ce qui est un bon et qu'est-ce qui est un mauvais investissement. Et donc, en fait, ils ont tout un tas de normes entre eux qui sont assez partagées au sein de cette industrie. Et en fait, en allant sur ce salon, en côtoyant ces investisseurs ou alors certains de leurs partenaires comme des promoteurs immobiliers, les collectivités vont s'éduquer, vont apprendre le marché et vont en fait essayer de s'approprier ce marché, ces codes, ces normes, finalement pour, puisque c'est bien ça l'objectif final, hein, essayer d'attirer l'argent de ces investisseurs sur leur territoire. Et donc ça, c'est le fil rouge du livre, avec trois entrées, trois temps un petit peu. Il y a un premier temps qui est de relier le MIPIM à la mondialisation, mais surtout donc la financiarisation de l'immobilier et de mettre en lumière le rôle de l'organisateur, puisque tout ça est organisé, est orchestré par une multinationale derrière qui en fait, elle aussi, a des intérêts marchands assez importants. Il y a un deuxième temps qui est vraiment le cœur de l'ouvrage, où je m'intéresse à la participation des collectivités et des aménageurs, en essayant de comprendre pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, et d'aller jusqu'à voir si on peut tirer un peu le fil pour comprendre qu'est-ce que ça fait d'aller au MIPIM, est-ce que vraiment il y a des effets sur certaines pratiques quotidiennes de l'urbanisme. Et enfin, il y a un dernier temps plutôt autour des recompositions et des contestations, puisque le MIPIM a fait l'objet spécifiquement de tentatives de mobilisation par certains militants et habitants. Et puis aussi, il s'est ouvert à d'autres thèmes d'investissement, et notamment le thème du logement, qui jusqu'alors était très marginal sur ce salon, notamment parce que les investisseurs ne s'intéressaient pas à ce, à ce marché.
Ouais, du coup, peut-être on peut essayer de voir justement les effets concrets de cette affaire-là. On a parlé d'apprentissage. Je pense que c'est intéressant aussi de poser que l'immobilier, spécifiquement dans sa spécificité, parce qu'il est fixe, parce qu'il est en dur et parce que sa valeur est très liée au lieu dans lequel il est, a du mal à se transformer en pure marchandise comme le capital et le capital financier aiment. C'est-à-dire quelque chose qui puisse circuler, qui puisse se liquider vite, qui puisse se vendre, se racheter, etc. Bon, c'est pas si simple. Et donc, il faut à un moment travailler cet objet pour qu'il devienne finalement et transformer ce rapport d'un propriétaire terrien, hein, un propriétaire d'immobilier, etc., à une finance plus dématérialisée. La situation avant du propriétaire terrien n'était pas bonne pour autant. Hein. C'est pas pour dire qu'avant c'était mieux. Mais on passe un cap, notamment, il y a ce chiffre dans ton livre qui est intéressant, les 100 investisseurs principaux pèsent 500 milliards d'euros, c'est-à-dire deux fois le PIB de la France. 5 000 milliards d'euros, j'ai du mal avec ces chiffres. Deux fois le PIB de la France, c'est-à-dire deux fois ce qui est produit en valeur ajoutée chaque année dans le pays. C'est leur patrimoine et là-dessus, ils ont en plus une force de frappe. Donc c'est vraiment des choses qui sont très importantes. Mais sur les effets, je pense que c'est intéressant de voir, au-delà de l'argent, de l'achat pur, on va dire, cet effet dont tu as parlé d'apprentissage, de qu'est-ce que ça fait. C'est comme ça que j'avais un peu formulé ma question, à la fois aux projets urbains et aux administrations qui les projettent, on va dire.
Ouais, alors effectivement, un peu deux types d'effets que j'essaye d'ausculter et de travailler dans le livre. À la fois des effets sur le contenu des politiques d'aménagement, voilà, sur ce qu'on produit, pour qui on produit la ville, où on produit, quel type de ville on produit. Et puis un effet plutôt sur la gouvernance, entre guillemets, enfin, sur les rapports de pouvoir et qui se renforce dans cette histoire. En essayant aussi de dépasser l'idée que ces questions de rapport de pouvoir jouent forcément... c'est pas forcément un jeu à somme nulle, en fait. Il peut y avoir des logiques de renforcement mutuel, en fait, de la finance et de certains pouvoirs politiques locaux. Alors, en fait, il y a deux exemples d'effets. Il y a des effets qu'on peut voir directement sur place au MIPIM. Et c'est-à-dire qu'à force d'y aller, les élus, les aménageurs et surtout en fait les services techniques, parce que c'est vraiment eux en fait qui préparent tout ça, ils apprennent en fait, pour certains, hein, ils apprennent ce qu'attendent les investisseurs, ce que sont ces normes d'investissement. Et donc, ils vont les répercuter dans leur stratégie de positionnement au MIPIM. Donc, ça peut se voir, par exemple, dans les types de projets qu'ils proposent. Je fais un aparté, parce qu'effectivement, les pouvoirs publics, on y reviendra peut-être, historiquement, ils étaient très peu au MIPIM. Et à partir des années 2000, ils débarquent en masse. Et non seulement ils viennent, on l'a vu dans la vidéo, pas seulement en tant que visiteurs, mais ils viennent en tant qu'exposants. Et ça, c'est aussi ce qui distingue le MIPIM d'autres salons immobiliers, parce qu'il y a d'autres salons immobiliers qui existent. Mais au MIPIM, en fait, il y a un système d'exposants avec des stands et puis il y a des visiteurs qui peuvent visiter ces stands. Donc, ces collectivités, pour certaines, elles essayent d'améliorer leur positionnement sur le salon. Et donc, typiquement, c'est ce qui explique qu'en fait, on voit beaucoup de projets d'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire de bureaux, de commerce, de logistique. Et ça reflète le fait que c'est les secteurs qui sont privilégiés jusqu'à présent par ces fonds d'investissement, ces sociétés immobilières cotées en bourse. Et donc ça, c'est une forme d'acculturation. C'est qu'on va plutôt mettre en lumière certains projets par rapport à d'autres. Alors, il y a une histoire aussi que je déroule dans le livre qui est un peu complexe. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce que j'ai vu, par exemple, en travaillant sur le Grand Paris, qui est un des pavillons les plus prestigieux sur le salon, c'est un de ces pavillons installés sur la plage, puisqu'en fait, aussi, dans le salon, vous avez toute une hiérarchie symbolique en fonction de là où vous êtes placé. Si vous êtes Dijon au niveau moins 1, bah, ce n'est pas très prestigieux. Vous êtes un peu à l'écart, personne ne va venir vous voir. Si vous êtes comme Toulouse, dans les étages, dans le palais des festivals, c'est un peu mieux. Et si vous êtes sur la plage, si vous pouvez payer les mètres carrés pour être sur ce pavillon, et ben là, c'est banco. En tout cas, banco dans l'esprit de ces gens et puis dans les caisses de l'organisateur. Et donc, le Grand Paris, ils avaient un problème, en tout cas de leur avis. Donc, le Grand Paris, ça chapeaute tout un ensemble d'institutions, de territoires, d'aménageurs. C'est une vingtaine de stands. Et en gros, leur diagnostic, c'était que c'était trop complexe. C'était pas assez visible et lisible par rapport à des gens comme Londres, qui sont un peu leurs compétiteurs, leurs concurrents numéro un. Et donc, en fait, ils ont mené tout un travail pour mettre de l'ordre dans ces pavillons. Donc, il y avait deux tentes. Ils sont regroupés sur une tente. Ensuite, ils ont essayé de convaincre avec des négociations interminables qu'il fallait en fait avoir des stands uniques avec un seul design. Et puis essayer de s'organiser autour de ce qui allait devenir le Grand Paris Express. Et tout ça, en fait, toutes ces tractations, c'est en fait pour être plus attractif auprès des investisseurs, pour être plus visible, parce qu'en fait, eh ben, vous avez une seule institution, voilà, United Grand Paris, c'est tant de millions, c'est 53 millions de mètres carrés. Et puis, vous êtes plus lisible parce que vous n'avez pas ce morcellement des institutions, mais vous avez un métro en rocade et puis quelques pôles de développement. Ça, c'est un effet qui se voit au MIPIM. On ne peut pas dire que ça se traduise ensuite mécaniquement dans l'architecture institutionnelle du Grand Paris. Les choses sont un peu plus complexes. En revanche, quand on s'intéresse au cas de Lyon, ce qui est frappant, c'est que des choses qui ont été apprises à l'occasion de l'organisation du MIPIM, elles ont été répercutées concrètement, directement, dans les politiques d'aménagement du Grand Lyon. Et en fait, concrètement, Lyon, son slogan un peu historique au MIPIM, c'était « Lyon valeur sûre ». Donc voilà, l'idée de « on propose une valeur sûre aux investisseurs ». Et qu'est-ce que ça veut dire, cette valeur sûre? C'est que si vous venez placer votre argent chez nous, vous aurez un marché assez sécurisé, parce que assez régulier, pas de surproduction. Donc, vous avez des loyers qui rentrent régulièrement. Et puis, comme quand même la valeur, elle monte toujours un peu, vous pourrez réaliser votre plus-value. Donc, Lyon, c'était un peu l'anti-Paris. Ils avaient tout un discours en disant « Paris, Londres, c'est très spéculatif, ça monte, ça descend. Nous, c'est sécurisé, c'est une valeur sûre. » Et donc l'idée, c'était de transformer un peu ce slogan vraiment dans la politique d'aménagement, en disant voilà, on a vendu valeur sûre au MIPIM, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit valeur sûre dans nos projets d'urbanisme? Et donc ils ont, je vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long, mais ils ont adopté un peu comme ça des grands principes d'aménagement, en disant bon, on arrête de faire plein de projets, on va faire 4 projets principaux, avec le projet de Pardieu, donc le quartier d'affaires autour de la gare, en pôle principal. Donc on concentre l'immobilier là-dedans, à proximité des axes de transport, et on ne sort pas tout d'un coup, on cadence, on donne les permis de construire au fur et à mesure, pour pas qu'il y ait une surproduction. Et en fait, tout ça, quelqu'un me disait en entretien, l'investisseur il est soigné, la logique urbaine lui travaille son rendement. En fait, ces idées de polarisation, de hiérarchisation, de phasage, tout ça est tendu et sous-tendu par ces catégories de la finance. Donc, je vais donner un exemple. En fait, pourquoi, en fait, pour un investisseur, dans son raisonnement, c'est mieux que l'immobilier soit polarisé, donc vraiment regroupé sur quelques sites, et puis à l'intérieur de ces sites, vraiment autour dans un rayon de 500 mètres, et pour eux, c'est parce que ça offre ce qu'ils appellent une profondeur de marché et donc une liquidité. Ça veut dire que si vous achetez là, vous êtes sûr que comme ça va... Enfin, vous n'êtes pas sûr. Vous faites l'hypothèse qu'il y aura moins de risques à acheter là parce que cette masse critique, et ça l'identifie dans le marché. Et donc, vous aurez plus de facilité à trouver un revendeur, un acheteur si vous voulez revendre, ou un locataire. Parce qu'en fait, votre locataire, il va se dire « Ah bah oui, là, il y a déjà plein d'entreprises, je vais aller me mettre à côté d'eux. » Et donc, ça va être plus attirant pour vos locataires. Et donc, vous avez moins de risques que vos bâtiments soient vides. Et donc, vous avez moins de risques que votre capital ne soit pas rémunéré, et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça, concrètement, en fait, ça a été très fort à Lyon. Alors, est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle? C'est une question, mais en tout cas, on a vraiment un chaînage entre un agenda en gros entrepreneurial porté par Colomb pendant 20 ans, le MIPIM comme un lieu clé, et puis les projets urbains, et donc avec des circulations très fortes.
Et du coup, vous voyez que le, du coup, la logique de construction de la ville, elle est tendue par des éléments qui même nous nous échappent. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si vous provenez à Toulouse, vous dites, bah, y a des bureaux partout, ils sont vides, etc. Mais on va vous dire, bah non, il y a pas d'offre neuve. Et donc, on n'est pas visible, ce n'est pas, etc. Donc, il faut en construire. Vous comprenez pas pourquoi il faut en construire. Il faut en construire. Et finalement, l'argument financier, hein, finalement, l'argent, nerf de la guerre, etc., passe au-dessus de tout. Et tout ça coûte même de l'argent. Alors, c'est, on est dans des tout petits chiffres, hein, 115 000 euros 690 pour la métropole de Toulouse pour avoir son stand au MIPIM. C'est quelques jours, hein, c'est combien de jours ?
C'est 4 jours, mais en réalité, les gens passent, ne viennent, enfin, restent 3 jours maximum pour les équipes techniciens et généralement les élus. C'est rare qu'ils fassent plus de 2 jours.
Donc voilà, c'est un peu cher quand même les 2 jours. Et donc ça, c'est un effet direct qu'on peut voir. C'est-à-dire aujourd'hui, on le voit autour de la gare. Ici, on est en train de construire aussi. Quoi, on cherche à construire. On a annoncé, d'ailleurs, ça a été annoncé au MIPIM, vous vous souvenez, 2017, mars, le 15 mars 2017, Jean-Luc Moudin, qui est un peu ivre, annonce que l'Occitanie Tower sera construit 150 mètres. 152 disent maintenant les experts mètres de mépris posés sur près du pont Pompidou à côté de la gare et donc ça sert à quoi de poser une tour comme ça, etc. Ça sert aussi à dire hey, on est là, ça sert à faire un événement à un endroit où si on fait pas un événement on n'est pas là. Donc là, Toulouse fait un événement pour pas cher, parce que finalement, c'est un bout de finance, un bout de terrain de la SNCF qui est cédé pour 130 millions. Quoi, y a 130 millions de budget là-dessus. Bon, voilà. Et c'est aussi intéressant de voir comment les pouvoirs publics contribuent à façonner un marché. C'est-à-dire l'opposition très souvent faite entre pouvoir public et marché, ici, s'estompe un peu. Pour que se construise ensemble une machine à produire de la ville, à trouver des financements pour produire de la ville, parce que le bureau, finalement, finance aussi les aménagements urbains, etc., qu'on nous vend. Donc, moi, j'ai aussi une question ici, peut-être plus spécifique, peut-être avant de venir sur la question du logement, c'est justement Toulouse, qui n'est pas Londres et qui n'est pas, c'est pas Istanbul, aux dernières nouvelles. Quelle place, comme ça ? Tu as parlé de Dijon, Toulouse, etc. Où est-ce qu'on peut placer Toulouse ? Est-ce que vraiment on n'est pas à la métropole qui cherche à se faire plus grosse que le bœuf ? Et finalement, est-ce que ce n'est pas un peu de la poudre aux yeux ? Est-ce que tu as 2-3 éléments là-dessus ?
Ouais, alors effectivement. Pour moi, sur Toulouse, j'avoue que je connais assez mal et puis je n'ai pas suivi spécifiquement ce cas sur le MIPIM, mais pour autant, ce que je comprends de leur présence, c'est qu'il y a 2 grands objectifs, hein, mais qui sont assez communs en fait, aux autres collectivités et plus généralement à la présence des pouvoirs publics dans cet événement. Il y a un, rencontrer ce qu'ils appellent les professionnels de l'immobilier et donc en fait, d'un certain immobilier, hein, parce que qui est cet immobilier vu comme un placement financier, donc on cherche tout le temps à optimiser la valeur, réduire les risques, comparer d'une ville à l'autre, ou l'immobilier par rapport aux obligations, etc. Et puis, en fait, il y avait cette dame, là, cette vice-présidente, qui disait, bon, on cherche à rencontrer les promoteurs, les constructeurs, les investisseurs. Et en fait, ceux qui sont haut de la chaîne, vraiment de la chaîne alimentaire, c'est les investisseurs, en fait. C'est ces fonds d'investissement, ces sociétés immobilières cotées en bourse. Puisque finalement, les promoteurs et les constructeurs, eux, ils achètent le terrain, ils construisent et après, ils vendent. C'est très rare, les promoteurs, qui construisent pour garder dans leur portefeuille, dans leur patrimoine. L'exception à la règle, évidemment, en tout cas pour l'instant, étant la compagnie de Phalsbourg, apparemment, puisque sur l'Occitanie Tower, c'est à la fois elle qui... En tout cas, les annonces, c'est qu'ils vont être promoteurs, et puis son dirigeant dit qu'ils vont garder en patrimoine. Après, je ne sais pas, peut-être que quand elle sera bien louée, ils pourront bien la valoriser et la revendre. Je ne peux pas lire dans le marc de café, mais en tout cas, c'est un schéma assez connu qui existe. Donc premièrement, attirer des professionnels de l'immobilier et surtout des investisseurs. Et deuxièmement, aussi, aller au MIPIM, ça sert à fédérer votre place immobilière. Hein. Vous y allez, certes, donc il y a des élus, il y a des techniciens, des aménageurs, mais généralement, ils y vont aussi avec les promoteurs immobiliers locaux, ils y vont aussi avec, avec des agents immobiliers locaux. Donc il y a un peu aussi cet effet de démarche de place, un peu de team building, quoi. On y va pour porter les couleurs de notre territoire face aux autres. Alors c'est difficile de le positionner vraiment. Effectivement, il y a certainement cette volonté de jouer dans la cour des grands et cette idée, mais qu'on retrouve aussi, mais y compris hein, chez les territoires qui sont plus haut dans la hiérarchie urbaine, comme les territoires du Grand Paris. Il y a cette idée de oui, mais en fait, on ne sait pas toujours pourquoi on vient, mais on sait qu'on ne peut pas ne pas venir. En fait, si on ne vient pas, c'est qu'il y a un problème. On envoie un mauvais signal au marché.
Ouais, tu dis à un moment, ne pas être au MIPIM, c'est se faire rayer de la carte du futur. Quoi, c'est un institutionnel qui dit ça ou...
c'est le maire d'une petite commune, c'est le maire de la commune d'Anguien, qui se trouve être, si je ne dis pas de bêtises, président du comité d'expansion économique du Val d'Oise. Donc il y a vraiment cette idée de, voilà, il faut en être en fait. Il faut envoyer un signal. Et alors le pire, c'est si vous avez commencé à venir et que vous n'y allez plus, là ça fait jaser en fait. Parce que, ah, qu'est-ce qui se passe en fait? De ce point de vue-là, ça sera assez intéressant parce qu'il y a certaines... municipalités ou métropoles qui sont passées sous majorité écologiste, qui commencent à se poser des questions, voire même qui, comme Bordeaux apparemment, qui ont décidé de plus y aller. Donc ça, c'est assez intéressant de voir pourquoi. Est-ce que c'est vraiment une décision politique? Est-ce que aussi c'est peut-être dans un contexte financier plus compliqué? On se dit que finalement, effectivement, dépenser plus de 100 000 euros ou voire 300 000 par exemple pour Lyon à l'époque ou 1 million pour le Grand Paris. Voilà. Et alors Toulouse, un peu en gros, quand même, ce qu'on entend souvent quand on fait des entretiens, quand on baigne dans ce milieu de l'investissement immobilier et des politiques d'aménagement, c'est qu'ils n'ont pas une très bonne image. C'est une métropole régionale, donc forcément, structurellement, par rapport à Paris, ils sont défavorisés. En gros, pour vous donner une idée, chaque année, avant le Covid, ils se plaçaient environ 30 milliards d'euros, ces investisseurs plaçaient en France 30 milliards d'euros dans l'immobilier. 75% restent à Paris, 25% vont en région. Et à Toulouse, j'avais regardé, c'était à peu près 500 millions. Donc déjà, ils jouent dans une structure, on va dire, un peu contrainte. Ensuite, Toulouse a une mauvaise image parce qu'apparemment, là, j'en sais rien, moi, je n'ai pas mené de recherche précise, il y a eu une très forte production de bureaux à un moment qui a entraîné notamment une forte vacance. En gros, il y a eu des bureaux vides, quoi. Et donc ça, pour un investisseur, bah, vous n'avez pas envie d'avoir un bureau vide parce que, en fait, si vous êtes... moyen terme, entre guillemets, si vous ne voulez pas juste acheter pour vendre, mais que vous êtes un peu intéressé par les loyers, bah, des bureaux vides, ce n'est pas le meilleur truc à acheter. Alors après, vous pouvez faire le pari que vous allez les remplir, mais s'il y a beaucoup d'autres bureaux vides, et bien, vos locataires ils vont pouvoir négocier les loyers à la baisse, ils vont pouvoir faire jouer la concurrence. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de bien. Et dernière facette de la mauvaise réputation de Toulouse, c'est... Ils sont mono-industrie, trop dépendants de l'aéronautique. Et donc, pour un investisseur, il se dit « mais c'est trop risqué, en fait, parce que si le secteur de l'aéronautique se casse la figure, eh ben, en fait, ça risque d'emporter tous les sous-traitants, etc. Et donc, mes locataires, ils vont plus pouvoir payer mes loyers. Et donc, moi, je vais plus pouvoir rémunérer mon capital. » Alors, c'est intéressant parce que on a coupé la vidéo pour pas qu'elle dure trop longtemps, mais la question juste après, les extraits qu'on a vus, ils posent justement une question en disant « Alors, pourquoi la diversification économique ?» Et il y a une autre personne, je crois, c'est la Chambre de commerce, enfin une troisième personne qui répond et qui dit « Mais non, justement, on a cette réputation, mais nous, on fait aussi du numérique, on a aussi... » Voilà, donc ils essayent là, au MIPIM et ailleurs, mais de casser cette image. Et donc, peut-être qu'ils ne le font pas que ça, mais une des raisons pour laquelle ils essayent de casser cette image, c'est aussi parce que eh ben, une mono-activité, c'est perçu comme trop risqué par ces gestionnaires là, d'actifs immobiliers, ces gros investisseurs. Ouais.
Je vais juste répéter la question, juste pour l'enregistrement. C'est pas grave, c'est très, très bien. Juste le rôle, donc, en gros, qu'est-ce que ça pourrait rapporter aux collectivités et est-ce que c'est pas juste de la poudre aux yeux, quoi ? Je résume parce qu'il a bien compris, c'est juste pour l'enregistrement.
Ouais, alors effectivement, quel est l'intérêt d'une collectivité ou quelles sont ses raisons pour chercher à capter ces investissements ? Alors, j'en vois deux. D'abord, en gros, quand on parle de l'immobilier d'entreprise, parce qu'on parlera peut-être un peu plus tard du logement, mais c'est le domaine de prédilection de ces investisseurs, et en particulier bureau commerce. La première raison, c'est pour faire du développement économique, et donc avec cette idée que certaines entreprises, soit qu'elles soient déjà implantées sur le territoire, soit qu'on veuille en attirer de nouvelles, elles ont besoin d'un immobilier performant. Et compte tenu du fait que de plus en plus de ces entreprises ne veulent plus être propriétaires, l'investisseur, entre guillemets, est un peu l'outil, le moyen pour arriver à une fin de développement économique. Sauf que, en fait, cet outil, il ne se laisse pas forcément manier, on n'en fait pas forcément ce qu'on veut. Et, entre guillemets, le capital, il vient avec de ces investisseurs avec des contraintes très précises. Et par exemple, c'est assez, on pourra revenir dessus, mais c'est assez défavorable aux PME, par exemple. Et puis aussi, et parce que l'immobilier, comme tu le disais, c'est quelque chose de fixe, qui est ancré dans des quartiers, ça participe d'objectifs là, plutôt du côté aménagement-urbanisme, c'est que ça peut aider comme on dit, requalifier des quartiers, aménager de nouveaux quartiers, parce que l'immobilier participe à la fois du changement du paysage, et puis très concrètement, ça vous rapporte de l'argent soit via des taxes, soit par exemple quand vous êtes dans une ZAC, une zone d'aménagement concertée, ça vous sert à payer vos équipements publics. Ça vous sert à payer des écoles, ça vous sert à payer des rues, ça vous sert à payer des parkings, etc. etc. Il y a un peu ces deux facettes, développement économique et aménagement. Et avec cet aspect, programmatique, ou en tout cas des objectifs qu'on peut se fixer en termes de politique publique, mais aussi avec des contraintes aussi financières, en fait. Et après, en gros, il y a un peu deux modes, et le curseur varie en fonction des collectivités et aussi en fonction du temps. Mais clairement, il y a des collectivités comme Lyon, c'est l'exemple parfait, entre guillemets, en tout cas, c'est l'archétype. À l'époque de Colomb, donc de 2001 à 2018, ça, c'est vraiment une logique entrepreneuriale d'adhésion, en fait. Il y a clairement une adhésion à une idéologie qui est une politique de l'offre. Il faut attirer des entreprises, des touristes, des cadres et aussi donc des investisseurs. Et puis, il y a non seulement une logique d'adhésion, mais de plus en plus, pour des collectivités, il y a une logique de contrainte lié à l'austérité financière, qui est qu'en fait, ils ont beaucoup moins de subventions, beaucoup moins de marge de manœuvre financière propre, parce qu'ils ne veulent plus augmenter les impôts, et donc qu'ils sont trop endettés. Et donc, ils se retrouvent en fait dépendre de plus en plus, donc pas seulement par adhésion, mais par contrainte de ces acteurs immobiliers.
Et je crois que tu m'arrêteras, mais je crois que c'est aussi un peu comme la bicyclette, quoi. À un moment, faut plus s'arrêter, sinon on tombe. Et je pense qu'il y a aussi un effet d'entraînement, et en même temps, c'est un jeu, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, il y en a qui vont perdre dans une compétition, il y en a qui perdent, et il faut essayer de ne pas être celle qui va perdre, quoi. Mais c'est, je pense que dans cette histoire de qu'on verra avec Max Rousseau samedi en 8, c'est ça, c'est qu'à un moment, ça perd, quoi. Il se passe un truc, un dégât un petit peu, et ça perd. Mais peut-être c'est l'occasion. Alors évidemment, vous pouvez commencer à poser des questions quand vous voulez. Mais j'aimerais te poser la question justement de quid du logement, quoi. Tu en parles dans le livre, tu dis ça devient, etc. Et c'est vrai que Là, on a parlé de bureaux, de commerce, et quelque part, bon, un grand centre commercial, perclus par la finance, etc. On voit bien, mais le logement, comment ça se passe et où ça se passe, quoi.
Oui, alors, en fait, effectivement, le logement... Donc, en gros, il y a une tendance un peu, hein, si on prend un peu de recul. Ces acteurs, historiquement, notamment les compagnies d'assurance, tout à l'heure, on est passé, je ne me souviens plus du nom de la place, mais...
Derrière le Capitole, la place de Gaulle. On est d'accord, le Square Charles de Gaulle, merci.
Voilà, et là, si vous voyez, je ne sais pas, vous voyez qu'il y a un fronton, il y a une porte où il y a marqué propriété des actionnaires de la compagnie d'assurance La Mondiale, qui doit être sans doute AG2R La Mondiale, ce qui est devenu AG2R La Mondiale. En fait, ces investisseurs institutionnels, notamment les compagnies d'assurance, mais aussi les foncières cotées en bourse, historiquement, ils étaient beaucoup dans le logement. Et en fait, notamment en fait, depuis le Second Empire, et puis surtout en fait, après, dans les années 50-70. Alors, ils avaient des modes de gestion un peu plus, ce qu'on appelle en bon père de famille. Ils cherchaient beaucoup moins tout le temps à maximiser la valeur. C'était beaucoup moins... C'était un petit peu différent. En tout cas, on va dire que c'était les mêmes bébêtes, mais qui fonctionnaient un petit peu différemment, toujours avec cet objectif quand même d'accumuler du capital, mais on va dire pas avec la même force et la même aspect systématique qu'aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'ils étaient propriétaires de logements, et que dans les années, en 92, il y a une grosse crise immobilière qui éclate en France, il y a une bulle immobilière, et en fait, à ce moment-là, les compagnies d'assurance et les autres investisseurs institutionnels, ils sortent en fait, ils vendent massivement le logement. Et puis les capitaux, ils vont les réinvestir plutôt dans le bureau et les commerces. Parce que c'est plus facile et c'est plus rentable à gérer. Et je vais expliquer pourquoi dans un instant. Moins compliqué politiquement. Et puis ils ont besoin de cash un peu frais, quoi. Et à ce moment-là, le marché du bureau, eh ben, il est complètement planté. Alors, c'est plus rentable à gérer, en fait, un bureau, parce que, en tout cas, les bureaux dans lesquels ils investissent, quand vous êtes un investisseur, vous allez acheter, par exemple, 15 000 m², vous allez le louer à 2, 3, peut-être 5 entreprises maximum, et puis sur des baux de long terme, de 9 ans, 12 ans, parfois. Et donc, en fait, vous avez seulement 3 locataires à gérer pour 15 000 m². Donc, si vous étiez en logement, 15 000 m², vous n'auriez pas que 3 locataires, quoi. Vous auriez beaucoup plus de locataires avec des règles plus compliquées. Par exemple, en bureau, vous pouvez faire payer toutes les charges à votre locataire. En logement, vous ne pouvez pas, etc., etc. Donc, ils sortent du logement. Et puis, en fait, ils commencent à y revenir là, depuis 2015, en fait. Et puis, alors en France, et puis plus généralement, c'est une tendance un peu générale qu'on observe dans plusieurs pays. Donc c'est pour ça qu'on commence à s'intéresser, et moi je suis en train de mener des recherches là-dessus, sur cette forme de financiarisation du logement. Alors, pourquoi ils reviennent ? En fait, dès les années 2008, et surtout à partir du quinquennat d'Hollande, il y a des appels très forts du pied du gouvernement pour les faire revenir, notamment dans le logement intermédiaire, qui est un type de logement avec des loyers plafonnés destinés aux classes moyennes. Mais en fait, ça ne marche pas tant que ça à l'époque. Et en fait, si le marché décolle vraiment à partir de 2015-2016 en France, c'est parce qu'en fait, les bureaux et les centres commerciaux... et le commerce plus généralement sont de moins en moins rentables parce qu'il y a trop d'investisseurs qui veulent placer là-dedans. Et puis d'autres produits financiers comme les obligations dont je parlais là, les bons du Trésor américain, ça s'écrase. Parce qu'en fait, tout le monde cherche à placer là-dedans, et comme tout le monde cherche à placer là-dedans, et ben en fait les taux de rentabilité, parce que vous achetez plus cher, et s'écrase. Et donc en fait, c'est presque par défaut entre guillemets qu'ils reviennent dans le logement. C'est parce que c'est comparativement, ça rapporte pas forcément plus qu'avant, mais comme tout rapporte un peu moins, le logement est moins inintéressant. Et puis quand même, ils se disent, et ça, le Covid les a En tout cas, c'est comme ça que, j'allais dire, les a renforcés dans cette idée, mais c'est comme ça qu'ils interprètent un peu le Covid, c'est l'histoire qu'ils sont en train de se raconter, là, notamment au MIPIM, c'est que le logement, bah, finalement, on voit bien, avec le Covid, le confinement, tout le monde a eu besoin d'un logement, tout le monde aura toujours besoin d'un toit au-dessus de sa tête. Donc, en fait, le logement, c'est moins rentable à gérer, mais quand même, on prend un peu de moins de risques que des bureaux ou que des centres commerciaux qui viennent d'être fermés pendant un an. Et puis, avec le télétravail, on a trop d'incertitudes, etc. Donc, on voit comme ça une augmentation, je ne sais plus ce que c'est les chiffres, mais en gros, d'année en année, en gros, la moyenne, c'était à peu près 1 milliard par an en 2015, et puis on est passé à 2, puis un nouveau palier à 4, là, on doit être autour de 7. Donc, il y a vraiment une... Voilà, on va voir en fait si c'est difficile encore à dire de faire des prédictions, puis c'est pas trop mon rôle. On va voir si c'est que conjoncturel en fait, ou si c'est quelque chose de plus structurel qui est en train de se mettre en place. Et en fait, ça se construit notamment au MIPIM, hein. C'est un peu le dernier chapitre, puisque notamment donc au MIPIM, on retrouve un peu cette idée, à partir des années 2010, poussée par l'organisateur du MIPIM, voilà, que le logement, ça pourrait être le nouvel Eldorado pour ses investisseurs. Et donc, quel type de logement, dans quelle ville, et quelles garanties doivent apporter les pouvoirs publics pour que le marché de l'investissement revienne en fait dans le logement. Alors, tu m'avais demandé, j'ai eu du mal à trouver des chiffres, mais finalement, si ça percolait jusqu'à Toulouse. Alors, c'est assez compliqué de trouver des données en fait, statistiques là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que c'est comme pour l'immobilier d'entreprise, c'est très très polarisé. Donc la plupart, c'est à Paris, en Île-de-France, un petit peu à Lyon et Marseille. Peut-être qu'il y en a qui commencent à arriver à Toulouse, mais en tout cas, ça ne fait pas partie des noms qu'on voit circuler dans les études de marché. Et peut-être l'exception à la règle, c'est ce fameux logement intermédiaire, puisque, en fait, c'est un nouveau produit immobilier qui a été créé en 2014 par le gouvernement. Et un des acteurs centraux de cette production, c'est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations qui s'appelle CDC Habitat. Et en fait, qui, pour faire financer ces logements, s'appuie directement sur des compagnies d'assurance et d'autres fonds d'investissement. Et en fait, CDC Habitat, ils sont moins polarisés sur l'Île-de-France. Ils en placent un certain nombre, hein, bien sûr. Ils en font construire un certain nombre. Mais quand même, j'ai l'impression qu'ils ont une politique plus équilibrée et donc qui serait susceptible, c'est une hypothèse à vérifier, hein, mais d'intervenir notamment dans la métropole régionale comme l'agglomération de Toulouse.
Du coup, pour ce rendez-vous-là, le MIPIM, les métropoles, si je comprends bien, ils vont devoir valoriser leur structure urbaine et tout pour trouver des arguments d'investissement pour attirer les investisseurs. Et ils ont quoi comme marge de manœuvre de transformation directe pour, par exemple, est-ce que ça va être décider que la ligne de métro, elle va jusque Blagnac, parce que là-bas, c'est le fleuron de l'aéronautique. Et du coup, si c'est possible de se déplacer du centre-ville à ici, ça va permettre, j'imagine, des liaisons. Enfin, c'est ça qui va être concrètement les transformations des pouvoirs publics pour pouvoir attirer de...
Ouais, tout à fait. Elles vont essentiellement... Chacun en fonction de ses compétences, qui la métropole, qui le département, qui... Bon, ce qu'on voit beaucoup quand même, hein, c'est vraiment maintenant des métropoles, donc ces structures intercommunales qu'on voit beaucoup au MIPIM. Et donc, ils vont s'appuyer effectivement sur le politique d'aménagement, en fait. Donc, ça va être des investissements dans les transports publics, en fait, qui sont clés et en fait, sur lesquels... qui servent en fait aussi à dérisquer les investisseurs et qui participent en fait de la rentabilité directe de leur immobilier, parce que ça permet d'amener des salariés, des clients pour les commerces, etc. Puis ça va être aussi plus prosaïquement leur pouvoir d'urbanisme, en fait, c'est-à-dire soit en fait, par exemple, de créer des ZAC et donc d'apporter des subventions ou un portage par une SEM, ou ça va être à travers le permis de construire, le plan local d'urbanisme, de dire bah là, avant on pouvait faire que des logements. Maintenant, on autorise à ce que ça soit des bureaux et on va, par exemple, autoriser à ce que les bureaux soient plus grands, plus hauts. Comme ça, ça va permettre de gagner en masse critique. Donc voilà, ça va être vraiment la politique d'aménagement. Après, ce sur quoi ils s'appuient, mais sur lesquels ils ont généralement moins de compétences au sens vraiment juridique, là, constitutionnel, de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, c'est des politiques de développement économique. Donc, ça va être mettre en avant telle ou telle filière et parfois avec derrière des soutiens, j'imagine, des subventions ou des formes, même si c'est très, très cadré, en fait, ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Mais ça, c'est un peu, en fait, les deux aspects qu'on retrouve quand on passe de stand en stand d'une métropole à l'autre. En gros, ils ont toujours un peu cette matrice entre... aménagement, c'est nos 3, 4, 5 projets d'aménagement phares. Et développement économique, voilà nos 2, 3 filières phares. Bon, et il se trouve que c'est... Mais ça, les travaux sur le marketing territorial le montrent bien. Mais en fait, en essayant de se distinguer comme ça, en fait, généralement, ils font tous la même chose. Les projets se ressemblent beaucoup. Et les filières, alors certes, bien sûr, il y a quand même des différences, mais souvent... C'est le numérique, le clean tech, etc., etc.
Peut-être qu'il n'y a pas de question. Déjà, est-ce qu'il y a la contestation, du coup, au MIPIM ? Est-ce que quoi, tu en parles dans ton livre ? Est-ce que tu peux juste raconter un peu ça, quoi ? Il y a quand même des gens qui s'y opposent.
Ouais, alors moi, c'est quelque chose que je trouvais assez intéressant. En fait... Bon, on connaît bien, que ce soit dans la recherche, certains dans nos activités militantes ou en lisant l'actualité, on voit bien qu'il y a des contestations contre tel ou tel projet de rocade ou d'écoquartier, des contestations entre guillemets qui jouent à domicile, donc qui vont vraiment contester sur le terrain là où ça se fait ou là où ça veut se faire. Et là, ce qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est qu'à partir de 2014, il y a un ensemble d'acteurs réunis au sein d'un réseau qui s'appelle la Coalition européenne pour le droit au logement et à la ville, qui se mettent ensemble et qui déplacent, en fait, ou plutôt qui élargissent l'horizon des contestations et qui disent, bah, nous, en fait, on s'aperçoit, alors, je ne sais pas s'ils ont regardé des vidéos comme on l'a fait, mais on s'aperçoit qu'il y a nos élus, des promoteurs, des fonds d'investissement qui se retrouvent tous là. Donc, en fait, on va aller à Cannes. Et puis, on va contester directement le MIPIM en le prenant pour terrain de lutte, entre guillemets, et puis pour cible. Alors, cette coalition, en gros, elle regroupe une vingtaine, même peut-être maintenant une trentaine de collectifs et d'associations à l'échelle européenne. Donc, en France, c'est notamment Droit au logement qui est dedans. Et puis, à partir de 2014, ils ciblent donc le MIPIM. Ils organisent un premier rassemblement, en fait, à proximité, mais qui est assez compliqué à mener. Et puis, voilà, pendant quelques années, ils vont comme ça faire des manifestations, des rassemblements. Ils y vont qu'une fois à Cannes. Mais en fait, là où vraiment ça prend, c'est à Londres, parce qu'en fait, il y a une déclinaison du MIPIM dans quelques villes. Donc, vous avez par exemple le MIPIM Asie à Hong Kong. Et en fait, en 2014, se crée aussi le MIPIM UK, donc Royaume-Uni, à Londres. Et vraiment, à Londres, en fait, il y a tout un terreau contestataire qui est une mayonnaise, entre guillemets, qui prend. Et donc, notamment avec ce fait d'armes d'avoir réussi à faire fermer le MIPIM UK pendant une demi-journée par les 300 personnes qui étaient là. Et en fait, au-delà du constat, en fait, que les élites en fait, se retrouvent au MIPIM, pourquoi ils contestent donc ces deux choses. Ils contestent le MIPIM en tant que tel, en fait, en disant bah, tous ces gens, en fait, se retrouvent pour décider du futur de nos villes sans les principaux intéressés, que sont les habitants. Et plus généralement, en fait, ils visent le MIPIM en disant que ça contribue à la spéculation et puis la financiarisation. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est aussi un peu, pour les militants, la découverte, en fait, j'ai l'impression, de ce concept de financiarisation. Et que ça, le MIPIM leur permet aussi un peu de renouveler la grammaire conceptuelle des luttes et de mettre le doigt sur quelque chose qui n'est pas... Voilà, un peu différent de la gentrification, qui est un peu devenu le mot-clé des luttes urbaines. Mais toujours est-il, en fait, que ces contestations, elles rencontrent des difficultés. Déjà, il y a une difficulté à mobiliser, il y a un manque de ressources. Bon, ça, je ne pense pas que ça soit spécifique à cette contestation, mais quand même, en fait, aller à Cannes, c'est compliqué d'un point de vue logistique, en fait. C'est pas, Cannes n'est pas connu pour son milieu militant. Donc, en fait, ils ont assez peu de relais là-bas. Mais bon, quand même, ils y vont. Et puis, surtout, ils font face à des difficultés, notamment à des stratégies en face de démobilisation. Alors, il y en a deux. La première, c'est que en fait, en 2014, ils veulent organiser un rassemblement. En fait, c'est même pas une manifestation. Hein. Et puis, la mairie de Cannes ne leur donne pas l'autorisation de se réunir dans l'espace public. Et en fait, pourquoi ? Parce que la mairie de Cannes, en fait, elle est en cheville, entre guillemets. C'est un partenariat très fort entre Rhythmidem et Cannes, qui existe avec le MIPIM depuis 30 ans, mais avec d'autres salons que Rhythmidem organise. Parce que Rhythmidem, historiquement, ils arrivent à Cannes dans les années, si je ne dis pas de bêtises, 60, initialement dans le secteur de l'audiovisuel. Donc en gros, Rhythmidem, ils organisent, je crois... 6 ou 7 manifestations qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes chaque année à Cannes. Et donc, ils ont bien compris qu'ils avaient un poids significatif sur l'hôtellerie, sur les yachts, parce qu'en fait, au MIPIM, il y a des gens qui louent des stands, mais il y a aussi des gens qui louent des yachts pour faire des réunions d'affaires sur les yachts, sur la restauration, etc. Et donc, il y a un partenariat entre Ried et Cannes, qui est très codifié d'ailleurs sur plusieurs années, et qui va même jusqu'au fait qu'en fait, il y a un petit montage, mais en simplifiant, Cannes, qui est propriétaire du Palais du Festival, met à disposition le Palais des Festivals à Rhythmidem. Donc en fait, subventionne comme ça Rhythmidem, au lieu de le faire payer, parce que normalement, le Palais des Festivals, si vous voulez organiser quelque chose, vous le louez. Et là, ils le mettent à disposition gratuitement, en échange de l'assurance que Rhythmidem viendra un certain nombre d'années. Et par ailleurs, ils ont un stand gratuit sur le MIPIM. Autre tactique de démobilisation, c'est aussi que Rhythmidem, et là, c'est quelque chose à laquelle, un événement, une petite anecdote à laquelle j'ai pu assister, puisque j'étais là à ce moment-là. Ils ont aussi ouvert un petit événement à Paris, un petit MIPIM, sur le secteur, ce qui s'appelle PropTech. Donc en gros, c'est les innovations numériques appliquées à l'immobilier. Et là, il y avait eu une petite action de droit au logement. Et en fait, là, il y a une forme de main tendue, en fait, en disant, mais venez, on va faire une réunion, on va se mettre autour de la table et puis essayer de voir comment on peut trouver une sorte de terrain d'entente ou en tout cas essayer de discuter. Donc, il y a un peu cette histoire de main tendue qui est peut-être en fait une clé de bras par rapport à la critique, parce qu'on voilà, alors il y a d'autres formes de critiques qui elles se sont immiscées dans le salon. Donc typiquement la Fondation Abbé Pierre, j'étais assez surpris, mais ils ont participé, ils sont venus en fait à deux reprises, je crois, discuter en fait de la question du logement. Alors peut-être dans une stratégie aussi d'entrisme en disant nous on pense que on va là où on peut peser. Toujours est-il qu'il y a vraiment des stratégies de démobilisation, et c'est un peu il y a eu cette contestation un peu émergente et puis qui depuis n'a plus lieu depuis 2019 au moins. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant au-delà de cette histoire, par les questions que ça ouvre. En fait, je trouve que ça fait réfléchir à la fois aux espaces et aux échelles de lutte urbaine, en fait, parce que la financiarisation, ça peut paraître complexe, abstrait. On a l'impression qu'aussi, il y a une plus grande distance, en fait. Il y a plein d'intermédiaires. C'est des investisseurs qui sont loin. Et finalement, là, on les a tous, entre guillemets, à portée de main. Ou en tout cas, on peut, si on cherche un peu, comprendre un peu qui sont ces acteurs. Ça pose des questions tactiques intéressantes aussi, je trouve, sur quelle critique on porte et à qui on la porte. Est-ce qu'on s'adresse, est-ce qu'on va directement, en gros, je simplifie, critiquer l'État ou le capital. Et là, l'essentiel plutôt de la critique, là, elle était portée sur l'État, sur demander des comptes à ses élus locaux, pourquoi vous participez, qu'est-ce que vous faites, etc. Et puis, ça, je l'ai expliqué aussi, je pense que ça ouvre des questions sur les catégories conceptuelles qu'on utilise pour lutter, quoi.
Oui, merci pour votre explication. Je voulais dire aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais vendredi 20, il y a une audience publique qui se fait par rapport justement à la Tour Occitanie, qui se fait à 9h, 58 rue Raymond IV, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des oppositions. Il ne faut pas dire que Moudenc fait ce qu'il veut sur Toulouse, puisque il a en 2000, oui, parce que justement, c'est lié à ça, il a créé en, alors je ne sais plus si c'est en 2018 ou 2019, mais en fait, c'est dans ces alentours-là, il a créé un Toulouse 2030. Pour dire, effectivement, et pour recevoir. Et il a privatisé, justement, la place du Capitole, enfin, pas toute la place, mais enfin, une partie de la place du Capitole, pour y recevoir un tas de promoteurs, pour montrer aux bons Toulousains, eh bien, tout ce qu'il allait faire et tout ce qui, la belle construction qu'il présente, qui est formidable, quoi. Donc, les associations se sont mutualisées, se sont vues. Alors, on s'est retrouvé une vingtaine ou trentaine d'associations, et on a créé un collectif qui s'appelle Toulouse 2031, mais qui s'est créé uniquement pour faire opposition à cette présentation qui a été faite un samedi, c'était un vendredi, samedi, dimanche, quoi. Et donc, il y a eu plusieurs choses qui se sont faites. Il y a eu aussi le groupe ANV comme 21 qui sont intervenus à la fin du meeting de Moudenc pour lui expliquer que tout ce qu'il fait, c'est complètement à l'opposé de tout ce qu'on a si on veut faire un développement durable, et que si les citoyens reprennent la main, et bien, c'est pas du tout cette construction qu'on veut. On veut une autre type de construction, quoi. Donc c'est déjà pour dire qu'il y a quand même des oppositions à Toulouse, que ça continue et que bon, il y aura quelque chose qui va se faire au niveau judiciaire, mais enfin, quelle que soit la réponse, ça continue, comme on dit. Après, ce que je voulais voir, parce que pour moi, c'est un point élément, je ne sais pas si vous l'avez soulevé, pour moi, un élément qui me paraît essentiel, c'est qu'aujourd'hui, l'État et les grands comptes sont ensemble, en fin de compte. L'État, les lobbies économiques sont dans les nouvelles lois qui sont créées. Et en fin de compte, quand on parle des logements, eh bien aujourd'hui, on force les bailleurs sociaux à vendre au privé des habitats. Et donc, on est dans un gros problème actuellement de type de logement qui se fait sur Toulouse, quoi. C'est des logements à un niveau trop élevé pour les gens qui y habitent, donc en fin de compte on fout dehors une grande partie de la population, et donc parce que à Toulouse il y a un grand besoin de logements, hein, mais des logements très sociaux. Donc ça veut dire qu'on a besoin de ces gens-là. Donc, enfin, il y a des groupes d'architectes qui sont regroupés, qui ont créé un collectif pour faire des propositions par rapport au projet qui était présenté. Parce qu'en fin de compte, le gros problème qu'il y a aujourd'hui sur Toulouse, c'est le gros problème, c'est qu'on détruit pour reconstruire. Alors qu'aujourd'hui, en termes de gaz à effet de serre, il n'y a rien de tel, quoi. Il est clair que la rénovation, c'est le chemin à suivre, mais ce n'est pas du tout ce qui est fait sur Toulouse, quoi. Voilà. Et alors, donc, la Tour Occitanie, bon, effectivement, c'est toujours dans les bâtons, mais c'est vrai qu'il y a quand même des oppositions, et donc tous les recours vont être faits pour retarder, en tout cas, cet élément, quoi. Donc, ce que je voulais poser comme question, c'est qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette corruption qui est cette mafia. Pour moi, c'est une mafia en réalité. Pour moi, c'est ce que j'appelle parce que malheureusement, je suis dans le bâtiment en tant qu'entreprise. J'ai arrêté mon entreprise l'année dernière parce que quand j'ai vu les lois qui sont sorties l'année dernière, qui nous rendent esclaves de normes qui ne correspondent pas du tout à ce qui devrait être fait, parce que quand on veut rénover de l'habitat, bon, mais il faut faire des choses qui tiennent la route. Non, maintenant, on fait du n'importe quoi dans l'habitat parce qu'effectivement, ce qui compte, c'est le business. Et si on veut vraiment repartir sur des véritables choses, et moi c'est pour ça que je suis en train de me reconvertir dans l'habitat de l'ancien, parce que c'est sur ça qu'il faut aller, parce que quand on voit tous les habitats non occupés aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'on n'a plus besoin de construire, hein. Rénovons déjà et on a déjà assez de travail, voilà. Donc pour moi, la question essentielle, c'est pourquoi ne pas mettre l'accent sur le fait qu'on est dans un monde mafieux et comment, en fin de compte, bouger tout ça, parce que la corruption... Mon mari a travaillé dans des bureaux d'études, mais chaque fois quand il devait faire passer des marchés, il y avait toujours de l'argent qui était donné en dessous de table, quoi. Mais ça continue. On dit que c'est pas vrai. Ça continue, quoi. À des niveaux bien plus élevés. Je pense que quand ils font ces genres de réunions, je peux vous dire qu'ils arrosent énormément, quoi. Bon. Donc effectivement, c'est pour ça que les citoyens doivent dire on n'en veut pas de cette société que vous nous proposez, parce que c'est pas dans cette société qu'on veut vivre, quoi.
Merci pour votre intervention et votre question. Alors, deux éléments, premier petit élément de réponse, juste sur ce que vous disiez par rapport aux bailleurs sociaux et la vente aux particuliers. Donc, effectivement, il y a eu cet objectif d'augmenter la vente aux particuliers. Et à un moment, dans la loi Elan, qui a été une réforme du logement social, entre autres, s'est posé la question aussi de la vente, justement, à des institutionnels, donc à des fonds d'investissement, à des sociétés immobilières cotées en bourse, avec, une opposition assez claire d'une partie du monde du logement social là-dessus. Et c'est quelque chose que certains acteurs ont dans le viseur. Donc après le logement intermédiaire, peut-être que la prochaine étape, ça sera du logement social, qui, d'un point de vue de fonds d'investissement, certes, rapporte pas forcément autant qu'on voudrait, parce que les loyers sont maîtrisés et plutôt sont bas. Enfin, et encore, il faut voir quel type de logement social. Mais en fait, c'est considéré comme quelque chose de peu risqué. Parce que, en fait, vous avez tout un tas de garanties et de mécanismes de solvabilisation de ces locataires par l'État. Pour ce que vous dites sur la corruption, c'est une question un peu compliquée à aborder. Ce qui est clair, en tout cas, au MIPIM, quand on fait de la recherche sur ces objets et ces terrains, ce qui est clair au MIPIM, en fait, c'est qu'il y a un in et qu'il y a un off. Hein, comme le Festival de Cannes, il y a un in et il y a un off. Donc le in, en fait, moi, c'est plutôt ce qu'on m'a laissé voir. C'est collectivités qui, en fait, sont sur les stands, qui font des conférences, qui présentent la maquette, pour certaines, montent des rendez-vous d'affaires, soit sur le stand, soit généralement, en fait, les rendez-vous d'affaires, c'est plutôt sur d'autres stands ou encore mieux à l'extérieur du palais des festivals, dans des suites d'hôtels, etc. Puis là, vous voyez, on est un peu en train de basculer vers le off, c'est-à-dire les endroits où on peut aller en tant que chercheur et où on ne peut pas aller, et de ceux qu'on veut bien nous raconter ou ne pas nous raconter. Et donc ce off, en fait, il est composé de rendez-vous d'affaires au match des sticks le matin avec le patron... de Bouygues Immobilier, par exemple, pour ce qui concerne la société d'aménagement que j'avais accompagnée. Il est aussi fait de dîners d'affaires. Hein. Je me souviens de ce président d'intercommunalité qui dînait avec les plus grands promoteurs et investisseurs de la place parisienne dans un restaurant sur les hauteurs de Cannes. C'est aussi des fêtes organisées par les promoteurs auxquels vont, je ne sais pas qui vient parce que j'étais pas à la fête, mais auxquels vont peut-être des représentants des pouvoirs publics, etc. Donc, effectivement, il y a tout un gradient de relations. Après, sur le lobby, c'est quelque chose de très important. J'en parle pas dans ce livre, mais je suis en train de travailler dessus, notamment dans le cadre d'un second livre. Cette financiarisation de l'immobilier, elle a été portée par des politiques publiques qui, par exemple, ont amené des nouveaux types d'instruments, des nouveaux fonds d'investissement, en fait. Et en fait, ces politiques publiques, elles ne sont pas produites dans un vase clos, mais il y a clairement des lobbies qui murmurent à l'oreille des législateurs. Des sénateurs qui connaissent très bien et qui pratiquent très bien les couloirs du ministère des Finances à Bercy. Il est clair que certains de ces instruments, de ces mesures, alors qu'ils sont assez techniques, hein, c'est assez pénible. Il faut, voilà, il faut se coltiner le code général des impôts, les débats parlementaires, les amendements, les sous-amendements, et puis faire des entretiens avec certains représentants, voilà, des grandes foncières ou des compagnies d'assurance. Mais en grattant un peu, on s'aperçoit que ces nouveaux instruments, donc je parlais tout à l'heure de Klépierre à propos du centre commercial des du Porté. Klépierre, c'est donc une société d'investissement en immobilier coté, donc une SIC. Et les SIC, en gros, c'est un régime fiscal qui a été créé en 2002, puis qui a eu plein d'amendements, qui a été c'est un régime fiscal qui a été rendu très intéressant pour favoriser, là, je ne rentre pas dans les détails, mais avec des exonérations d'impôts sur les sociétés, avec des diminutions d'impôts par deux. Si vous êtes une entreprise et que vous revendez justement pour devenir locataire, que vous revendez à Klépierre, ça n'existe plus aujourd'hui, mais à une époque, eh bien, vous payez deux fois moins de taxes sur la revente. Etc. Donc voilà, il y a un lobbying assez clair sur la production de ces nouveaux outils, la fiscalité, et puis aussi sur le contenu des politiques publiques, et notamment sur que ça soit le logement ou vous parliez de rénovation énergétique. En fait, on a aussi mené des recherches avec des collègues où on regardait. Alors, je suis désolé, c'est pas sur le logement, mais c'est plutôt sur les bureaux. En fait, à un moment, dans le cadre de la loi, des deux lois Grenelle, il y a une, il y a une obligation de travaux pour diminuer la consommation énergétique de 38% à horizon, je vais dire une bêtise, 2050, je pense, des bureaux et des commerces. Et donc, en fait, bah, ça a interpellé directement les investisseurs parce qu'ils se sont dit, ah bah, si on n'anticipe pas, si on ne se met pas aux normes, en fait, la valeur de notre portefeuille, elle va baisser parce qu'on ne sera pas au niveau que la loi nous demande. Et donc, eh ben, ils sont allés voilà, dans des groupes de travail pour faire en sorte que les détails techniques de ces obligations de rénovation énergétique, eh ben, ça ne soit plus une menace, mais ça devienne une opportunité et donc qu'ils puissent créer ce qu'ils appellent de la valeur verte.
La valeur verte, ça fait rêver ça. Encore des questions. Moi, j'aurais peut-être une remarque. Peut-être tu voulais poser une question, Florence. Une remarque sur cette histoire de corruption qui est juste, hein, je pense. Hein, c'est vraiment pas pour. Mais j'ai l'impression dans cette idée de comment est-ce qu'on pense justement les problèmes de l'espace dans lequel on vit, de focaliser sur cette histoire, parce que le problème de l'entrée par la corruption, c'est qu'une bonne personne honnête pourrait changer le système. Et je pense qu'il y a vraiment un système, une manière d'organiser, notamment à partir de la propriété privée et de cette nécessité de l'investissement, qui fait qu'à un moment, n'importe qui est pris là-dedans. Cette image de la bicyclette que j'ai prise tout à l'heure n'est peut-être pas si idiote, dans le sens où à un moment, bah, voilà, il faut pédaler, quoi. Et ça va être intéressant de voir ce qui se passe avec les municipalités écologiques qui arrivent avec des intentions pures. Qui vont peut-être se faire attraper du côté de la corruption, je pense, d'un certain côté, je ne l'exclus pas, mais aussi du côté de qu'est-ce qu'on fait quand, de toute façon, la coupure du robinet de la possibilité de produire le logement nécessaire, de la bonne ou de la mauvaise manière, a été coupée, que de toute façon, il faut aller le chercher. Il faut aller chercher l'argent chez les investisseurs. C'est-à-dire que ce qui s'est passé quand même depuis les années 80, c'est de déporter l'effort de financement et d'une capacité, quand on voit les capacités de financement des grands ensembles de l'État français, peut-être pour des mauvais résultats, hein, je ne dis pas que c'était super non plus, mais bon, à aujourd'hui la nécessité de faire des on ne peut même pas construire une école presque, des fois à certains endroits, sans avoir une subvention, une institution, etc. Ça fabrique un moment où les finances, et sans investisseurs à 5000 milliards d'euros, eh ben, ils deviennent indispensables, quoi. Et encore une fois, ça n'enlève pas cette question de la. Et je pense qu'elle est tout à fait juste. Ce que vous avez dit est tout à fait juste. Mais c'est juste justement de se dire, bah, tiens, le retour de la spéculation, où est-ce que ça passe et comment ça se fabrique.
Juste pour ajouter quelque chose à ce que tu dis, Américo, c'est vrai que le cas des écologistes, pour ne pas les citer, il est super intéressant au MIPIM. Alors, déjà, moi, ce que j'avais vu, notamment en travaillant sur Saint-Ouen ou Saint-Denis, donc des bastions du communisme municipal, c'était que les élus, finalement, ils y allaient aussi au MIPIM. Alors, parfois un peu gêné de s'expliquer pourquoi, mais bon, ils y allaient. Alors, pas forcément avec un agenda aussi entrepreneurial et en fait conscientiser que des gens comme Colomb, mais ils y allaient. Et avec en fait Europe Écologie Les Verts et plus généralement les majorités écologistes, ça va être très intéressant. Par exemple, quelqu'un comme Éric Piolle, il vient très souvent au MIPIM. Et alors, j'avais vu qu'il avait fait une interview, justement, au MIPIM, où il disait, oui, la financiarisation du logement, c'est pas du tout... ça va pas dans le bon sens, ça a des conséquences néfastes. Alors là, pareil, le MIPIM est-il le meilleur endroit pour dénoncer ça? Après, c'est à lui et à ses électeurs de juger. Donc, on a l'impression qu'il y a un peu des stratégies d'entrisme, ou en tout cas d'essayer d'aller porter la critique au cœur. Mais en fait, est-ce qu'on peut vraiment porter la critique dans ce genre d'espace, en fait? Moi, il me semble qu'il y a plein d'éléments qui montrent que c'est difficile, en fait. Et puis, à Lyon, ce qui était intéressant, donc là aussi, Grégory Doucet, le maire de Lyon, Bruno Bernard, le président de la métropole, ils sont allés au MIPIM. Doucet, il a fait à Paris, parce que ça avait été délocalisé pendant le Covid, un peu un discours de politique générale, finalement, interprété par certains comme une forme de montrer un peu de bonne volonté et un peu clarifier, en fait, quelle sera la politique. Et puis, Bruno Bernard, qui au début disait qu'il voulait aller au MIPIM les mains dans les poches à Cannes, apparemment, là, il a fait un discours. Alors, moi, j'y étais pas, mais c'est des recherches qui sont en train d'être menées, dans lesquelles je suis impliqué. Finalement, il a fait un discours où il a surpris tout le monde en disant il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Le modèle lyonnais de Colomb, finalement, on s'inscrit dedans, etc. etc. Donc, il y a des... On va voir si les lignes vont tant bouger que ça et si les gens ont tant la capacité que ça à les faire bouger. Et je pense, c'est pas le seul endroit où on peut le voir, mais le MIPIM, c'est un bon terrain ou un test pour voir ça, quoi.
C'est quoi la capacité réelle d'action des collectivités justement par rapport à l'État? Parce que ce que vous disiez aussi par rapport, enfin, la financiarisation qui s'inscrit aussi, c'est un rapport aussi aux retraites. Donc, on privatise les retraites, donc il faut un moyen de gagner de l'argent pour payer les pensions des gens. Et donc, du coup, il faut des investissements sûrs. Et l'investissement sûr, c'est l'immobilier. Et donc, du coup, on privatise aussi le logement et l'immobilier en général pour arriver à. Enfin, du coup, il y a une logique générale. Et ça relève quand même plutôt des États. Du coup. Les collectivités là-dedans, est-ce qu'elles ne sont pas un tout petit peu coincées? Une collectivité comme Rennes, par exemple, qui a quand même eu une politique, en tout cas sur la question du logement, du foncier, qui est quand même de longue date et donc du coup qui lui donne une certaine force dans l'action vis-à-vis des investisseurs et dans sa politique publique, elle voit un peu la limite du truc. S'il n'y a pas de l'argent à un moment qui arrive aussi de l'État, etc. Elle a un cadre qui est très serré, une administration qui est très dure, et pour autant, ils sont un peu à la limite de la légalité à certains moments et à la limite de leur capacité d'action, parce que le foncier, ils en avaient beaucoup, et puis ils en ont un peu moins, et puis reconstruire la ville sur la ville, ça commence à devenir un peu cher, ils n'ont plus les moyens. Donc, du coup, c'est quoi la marge d'action des collectivités? Est-ce qu'elles ne sont pas finalement obligées de jouer à ce petit jeu-là à un moment par l'État central qui a bloqué le jeu, quoi?
C'est une très bonne question, c'est une redoutable question. Je pense qu'il y a un peu la réponse dans la question. Non, mais effectivement, en fait, il y a un peu un jeu à trois, hein, entre, au moins à trois en tout cas, entre l'État, les collectivités, et ce secteur de l'immobilier financiarisé, quoi. Et les collectivités, c'est vrai que elles sont pour alors les collectivités pour celles qui voilà jouent aussi le jeu de la compétition, mais ont-elles le choix dans cette structure contrainte avec de moins en moins de subventions de l'État, etc. Des suppressions de taxes, de comme la taxe d'habitation, la taxe professionnelle qui a été réformée, qui a été payée par les entreprises, etc. Clairement, elles ont de moins en moins de marge de manœuvre du fait de ces politiques d'austérité, en fait. Donc, pour celles qui, encore une fois, s'engagent dans une politique de reconversion de terrains industriels ou plus généralement d'aménagement de leur territoire, les marges de manœuvre sont très compliquées, quoi. Alors, il y en a certaines, clairement, qui sont hors des radars des investisseurs. Ça ne vous étonnera pas que, je ne sais pas, les investisseurs, ben, je n'ai jamais vérifié, mais je ne pense pas qu'ils aillent à Vierzon, par exemple, ou dans d'autres territoires qui en décroissance urbaine, comme ça. Mais pour celles qui font un petit peu partie de... qui sont un peu sur le radar et qui souhaitent faire des gros projets d'aménagement, bah effectivement, hein, si elles souhaitent faire du bureau, c'est compliqué parce que elles ont des coûts d'aménagement, parce que pour les raisons qu'on a abordées, les entreprises ne veulent pas forcément acheter leurs locaux, ou alors c'est peut-être celles qui veulent l'acheter, en fait, c'est des PME, c'est des artisans, donc en fait, ça ne vous fait pas les milliers de mètres carrés qu'il vous faut pour équilibrer votre projet. Bah, les collectivités, c'est vrai qu'elles ont, elles ont des marges de manœuvre de plus en plus contraintes. Après, certaines jouent le jeu volontiers, en fait. Et je pense qu'il y a à la fois ce jeu de contraintes et, pour certaines, une adhésion très claire, en fait, à ce modèle.